tu voulais faire
Non,
avec.
c'est bien.
Ouais.
Si, tu peux lire les versets 17 à 20.
C'est ça,
Oui, d'abord, oui. Merci, monsieur.
puis ensuite 33 à 37, hein.
Oui.
C'est ça. Donc, à partir du verset 17, Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Puis à partir du verset 33, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Voilà donc cette lecture. Et avant de laisser la place à David, on va chanter un dernier chant.
Merci d'abord de vos prières pour mon voyage qui s'est vraiment super bien passé. Je reviens vraiment ému, touché, un peu ébranlé par ce que j'ai entendu et vu pendant cette assemblée générale inaugurale d'une nouvelle association réformée baptiste aux États-Unis. Le programme était bien rempli de rapports missionnaires. Cette association est très axée sur la mission. Son but même, le but de ces églises en venant ensemble dans une association, c'est surtout pour pouvoir mieux travailler ensemble pour atteindre le monde de l'Évangile. Nous avons eu des rapports de personnes en Chine, en Oman, pays du Moyen-Orient, des gens qui travaillent partout en Amérique latine, en Afrique. On a vu par vidéo, parce qu'ils ne pouvaient pas venir, un homme qui travaille avec sa famille, ses petits-enfants, enfin deux couples réformés baptistes, dans un coin d'Indonésie qu'on ne peut pas atteindre, sauf par avion qui peut atterrir sur un lac. Et le coin est tellement reculé dans les vallées entre les montagnes en Indonésie que nous l'avons vu. Marcher à travers des rivières qui venaient jusqu'aux poitrines pour arriver au village où il vit depuis des années parmi un peuple à moitié nu et annonçant l'évangile. Et tu vois cette école de dimanche, des dizaines d'enfants qui chantent les louanges de Jésus-Christ dans cet endroit. C'est très, très émouvant. Et voilà deux familles occidentales qui élèvent leurs enfants dans ce milieu et qui annoncent l'évangile à ces gens. C'est vraiment. C'est des gens dont le monde n'est pas digne, disons-le comme ça. Donc merci beaucoup pour vos prières. C'était un moment très bénéfique pour moi. Nous revenons au sermon sur la montagne. Et à ces versets 33 à 37 que nous avons lu tout à l'heure. Je vous rappelle que le sermon sur la montagne est un peu la charte du royaume de Dieu. Jésus-Christ a apporté un nouveau royaume, un nouveau peuple, un nouveau règne, une nouvelle manière de vivre sur terre qui n'a pas existé. Et par sa puissance, il fait venir dans le monde un échantillon de ce qui appartient vraiment au futur, à un royaume céleste. Mais déjà maintenant, il y a des gens qui sont entrés dans ce royaume et qui, par le changement de la puissance de ce royaume, commencent à vivre d'une manière céleste. Bénis, bienheureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, donc un monde céleste, est à eux. Et ne pensez pas que ce sermon, c'est l'enseignement de Jésus sur comment accéder au paradis, comment être sauvé, si vous voulez. C'est pas ça. C'est la manière de vivre de ceux qui sont sauvés par la mort de Jésus-Christ sur la croix et par la venue de son esprit dans leur cœur. Mais Jésus a bien dit, comme Joël vous a lu, que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, à la fin du temps, vous ne serez pas parmi ceux qui accèdent au royaume. Et il voulait dire tout simplement, si votre justice et votre manière de vivre maintenant ne surpassent pas celle des scribes et des pharisiens, ça prouve que vous n'avez jamais été né de nouveau, que vous n'êtes pas un vrai chrétien. Et c'est très important pour nous parce que nous ne sommes pas toujours au clair de ce que c'est qu'un vrai chrétien. Mais Jésus nous enseigne dans ce sermon que le vrai chrétien est quelqu'un qui est changé, et il est changé justement dans le sens où il ne veut plus arrondir les angles de la loi de Dieu, baisser les exigences pour lui convenir, mais il est celui qui accepte la loi de Dieu dans sa vraie plénitude et qui, lui, change sa vie pour correspondre de plus en plus à cette loi. Et vraiment, ça, ce n'est pas une petite chose. C'est vraiment une chose assez incroyable qu'il y ait des gens sur la terre qui sont en train de se faire une violence pas possible, de perdre un emploi, de vraiment aller à l'encontre du courant de la vie moderne afin de vivre cette vie ici. Parce qu'ils n'acceptent pas d'adapter la loi de Dieu à eux, mais ils se repentent constamment et ils reviennent en arrière pour réparer les choses qu'ils ont mal faites parce qu'ils tiennent à adapter leur vie au royaume de Dieu. C'est vraiment assez incroyable. Et nous arrivons maintenant au sujet des serments, les serments et la véracité. Je vais juste relire les quelques versets du 33 à 37. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, tu ne diras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ou bien, que ton oui soit oui, et que ton non soit non, ce qui va au-delà de cela vient du mal. Vient du mal. Nous allons donc nous poser quatre questions, je pense, sur ce passage pour essayer de comprendre comment devons-nous alors maintenant vivre dans le royaume de Dieu par rapport à l'honnêteté, la véracité. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi les gens disent « je te le jure » Alors, nous avons eu une amie dans une autre ville en France qui, si vous étiez avec elle pendant 5 minutes, vous aviez entendu au moins 2 fois cette phrase « je te le jure ». Elle le disait constamment. Je crois que si vous aviez une conversation d'une heure avec elle, elle avait dit une douzaine de fois, sans exagérer, parce que je ne peux pas exagérer en prêchant ce serment, je dois être honnête, une douzaine de fois, je te le jure. Or, c'était la personne la plus, je vais le dire comme ça, la plus menteuse que. Moi, une des personnes les plus menteuses que j'ai jamais connues dans ma vie. Et elle avait cette réputation dans le voisinage, car c'était une voisine. Mais constamment, cette phrase, je te le jure, je te le jure. Et donc, mettez ensemble ces deux choses, le fait qu'elle soit aussi peu honnête et le fait qu'elle utilise tant le serment. Le fait de jurer, et ça va nous aider. Oui, c'est vrai que le mensonge est endémique dans notre société. Je ne sais pas qui ment le plus. Est-ce que c'est les politiciens? Nous savons tous que le mensonge est endémique, omniprésent parmi les politiciens. Mais nous pensons aux gens qui travaillent aussi dans la publicité. C'est presque un métier de mensonge, d'exagération. Le premier assureur de France, sauf qu'il y en a plusieurs qui disent qu'ils sont le premier. Ou bien est-ce que c'est les commerçants? Alors ce produit, je vous assure que ça vous durera 10 ans cet appareil, au moins. Ou bien, est-ce que c'est les avocats? Le criminel dont tout le monde sait qu'il a été pris en flagrant délit, mais l'avocat, au moins lui, trouve une façon de dire que non, vous savez que mon client est innocent. Ou bien, est-ce que c'est les gens dans le sport? On dirait que certains joueurs de foot sont tellement habiles à feindre, n'est-ce pas, le croche-pied. Oh! Il m'a... N'est-ce pas? Et lorsqu'on revoit, quand il rebobine, et on revoit en slow motion, on voit que la personne ne l'a même pas touché. Et il est par terre à moitié mort pendant à peu près 3 minutes. Quelqu'un m'a dit la semaine passée, qui avait un haut niveau dans le sport, il m'a dit non, mais je ne pouvais pas devenir entraîneur. J'ai dit, mais pourquoi? Il a dit, parce qu'on est obligé de mentir tellement. De mentir. Il m'a dit de mentir sur les joueurs, de mentir aux joueurs. Non, non, viens dans notre équipe, tu vas jouer beaucoup. Et puis le type ne joue ben, presque jamais, il est sur le banc. Ou est-ce que c'est les gens dans la science? Ou est-ce que c'est ceux qui sont dans l'enseignement? Comme ma fille m'a dit que dans l'école, on voulait l'obliger de donner aux enfants des notes plus hautes que la vérité, afin que l'école ait une réputation plus bonne et reçoive plus d'allocations du gouvernement. Ou est-ce que c'est les gens qui travaillent dans les sondages? quand quelque chose n'est pas politiquement correct, comme le Brexit, les sondages ne le voient pas venir. Oh, beaucoup d'autres personnes le voient venir, mais les sondages sont loin de la vérité. Pourquoi? Parce que les sondeurs ont aussi un parti pris et veulent, ou les médias. Qui est plus menteur que nos médias? Tellement sélectif dans les actualités qu'ils rapportent et ce qu'ils ne rapportent pas. Politiciens, commerçants, avocats, sportifs, enseignants, scientifiques, médias, sondeurs. Nous avons vraiment besoin d'étudier ce passage ce matin. Première question. Qu'est-ce qu'un serment? Dans l'Ancien Testament, il y avait deux sortes de promesses spéciales qui vont par ce nom de serment. Il y avait des vœux où on consacrait quelque chose à l'Éternel. On promettait de donner à l'Éternel quelque chose s'il faisait quelque chose pour soi. Et deuxièmement, il y avait ces serments où on promettait d'accomplir une action. Par exemple, le serviteur Abraham l'oblige à mettre sa main sous sa cuisse, c'était la façon de jurer à l'époque, et de jurer qu'en allant chercher une femme pour le fils d'Abraham, il ne chercherait pas une femme parmi les peuples cananéens. D'accord? Donc, il jurait d'accomplir, il promettait d'une manière spéciale d'accomplir quelque chose et de ne pas donc faillir. Donc, dans les serments de l'Ancien Testament, il y avait trois caractéristiques. D'abord, on devait jurer par le nom de l'Éternel. Écoutez ceci, c'est le livre de Deutéronome 6, 13 et 14. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. Deuxièmement, un serment était toujours volontaire et jamais obligatoire. Je lis en Deutéronome 23. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, parce que ce n'est pas obligatoire. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par le nom de l'Éternel, volontaire, et troisièmement, quelque chose qui ne doit pas être entreprise à la légère. Ecclésiaste 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne point faire un vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Un vœu ou un serment était donc une action solennelle devant les yeux de Dieu. Ça, c'est notre première question. En fait, dans notre passage, Jésus ne parle pas de vœux, des choses consacrées à l'Éternel, mais seulement de serments proprement dits, c'est-à-dire des choses que je jure de faire, ou je jure que ma parole est vraie. Que je jure que ce que je dis est véritable. Donc, c'est plutôt une question de véracité. Ce que je promets, je le ferai. Ce n'est pas une fausse promesse. Ou ce que je viens d'affirmer, c'est vrai, ce n'est pas faux. Je dis la vérité. Deuxième question. Dans quel but Dieu a-t-il commandé aux Juifs de jurer? Parce qu'il y a des commandements. Vous jurez par le nom de l'Éternel. Pourquoi est-ce que Dieu a commandé de jurer pour attester la vérité parfois? Bon, Hébreux 6 nous donne un peu la réponse. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Donc, les sermons étaient une partie intégrante de la vie des Juifs, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais s'il y a besoin de sermons, c'est parce que il y a mensonge. Il y a besoin de garantir que ce que je dis est vrai. C'est pour ça qu'il y a l'existence des sermons. Et on peut le voir facilement en France aujourd'hui, dans le fait que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est témoin dans un procès? Quand on vient devant, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on jure, on doit faire serment de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et c'est une manière de garantir solennellement, sous peine de sanction possible, si on parjure, on est passible du jugement, de garantir donc que la personne va dire la vérité. Dans l'Ancien Testament, les serments devaient solliciter dans le cœur du peuple de Dieu la crainte de Dieu, parce qu'on le dit dans son nom et devant lui, et donc pousser les gens à dire vrai. Par exemple, vous avez dans les juges, les anciens de Galaad, une ville en Israël, ont juré à un des juges, des gouverneurs qui s'appelle Jephté, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Donc le serment invoquait une punition que Dieu nous juge si nous ne faisons pas. Donc c'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas une parole dans l'air. Lorsqu'on prête serment, on s'expose volontairement à une sanction. D'accord? Deuxième exemple de ça, c'est en Ruth 1, 17, où Ruth dit à Naomi que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Et elle dit ça devant Dieu. Je te demande de me traiter dans toute ta rigueur, c'est une prière. De faire tomber le mal sur moi si je ne garde pas ma parole. Ok, troisième question. Dans quelle erreur les Juifs étaient-ils tombés au temps de Jésus vis-à-vis des serments? Et dans quelle erreur est-ce que nous devons éviter? Moi, je veux vous pousser à aller plus loin que le simple fait de dire une phrase comme je te le jure, et aller au fond de notre manière de vivre vis-à-vis de notre parole. Ok, donc relisez avec moi le verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, citation de Lévitique chapitre 19, verset 12, tu ne parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Alors, la traduction n'est pas très bonne dans la colonne parce que cette phrase ne dit pas vraiment serment envers le Seigneur. C'est la traduction du sommeur qui est plus exacte. Il dit ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, pas envers le Seigneur. Un serment n'est pas, souvent, c'est pas envers le Seigneur, c'est envers, je te jure, Abraham ou quelqu'un d'autre. C'est pas envers le Seigneur, c'est devant le Seigneur. Ok? Maintenant, nous pouvons comprendre le problème des scribes et des pharisiens lorsque Jésus dit qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras donc des serments que tu as faits devant le Seigneur. Maintenant, nous avons là une citation de Lévitique 19 et je vais prendre le soin de vous lire ce verset dans ce contexte et vous allez voir comment les scribes ont été un peu habiles en utilisant ce verset pour contourner le vrai commandement, la vraie exigence de Dieu par rapport à la véracité. Alors, je vais vous lire à partir du verset 11 dans le chapitre 19. Vous ne commettrez pas de vol et vous n'userez ni de tromperie. Écoutez bien, voilà le contexte. Vous n'userez ni de tromperie ni de fausseté, chacun envers son compatriote. Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est de ce verset que les scribes et les pharisiens faisaient allusion quand ils enseignaient. Mais vous savez que l'accent est où dans ce verset? L'accent est où? L'accent est le fait de ne pas jurer faussement. Mais les pharisiens ont changé l'accent. Ils ont dit, la Bible dit, tu ne jureras pas faussement dans mon nom, dans l'Éternel, dans le nom de l'Éternel. Mais tu peux jurer et ne pas être lié par ce serment si tu jures par Jérusalem, ou si tu jures par le ciel et la terre, ou si tu jures par ta tête. Donc, il fait une distinction, et on peut le retrouver aujourd'hui dans les écrits des rabbins de l'époque. Il faisait une multiplicité de distinctions entre quel serment est, te lie et quel serment ne te lie pas. Par exemple, si tu jurais par Jérusalem, tu n'étais pas obligé de faire la chose, mais si tu jurais envers Jérusalem, et puis, en te pointant vers Jérusalem, ça te liait à garder ta parole. Donc, les scribes et les pharisiens ont monté toute une façon de contourner le vrai sens de ce commandement de ne pas jurer faussement. Donc, nous pouvons voir que la loi de Dieu, la loi que Dieu avait donnée dans l'Ancien Testament, est un échec total. Parce que chaque fois que Dieu donne une loi, les pharisiens et les scribes trouvent un moyen de contourner ça et d'utiliser même cette loi pour faire le contraire, tout en semblant être pieux. Parce qu'après tout, ils sont ceux qui sont attachés à la loi et enseignent la loi. Mais ils arrondissent les ongles et ils trouvent un moyen de faire exactement le contraire du sens de la loi. La quatrième question. Nous voyons que Jésus est en train de redresser, de corriger, quand il dit, et je reviens au passage, moi je vous dis de ne pas jurer. Ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus ne va pas jusqu'à dire, tu ne jure pas par le nom de l'Éternel. Il dit ne pas jurer par Jérusalem, par ta tête, par le ciel, par la terre. Et puis, oui, il dit, en fait, dans votre vie normale, dans votre vie de tous les jours, ne jure pas simplement. Que votre parole soit oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Et si tu dépasses ça, si tu surpasses ça, ça vient du mal. Donc, premièrement, il nous interdit de jurer par un nom autre de celui de Dieu. La terre, ta tête, Jérusalem. Et il nous donne deux raisons. D'abord, c'est de l'hypocrisie. Dans les versets 34 et 35, il dit. Ne jure pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Parce que les pharisiens pensaient qu'en jurant par le ciel, ils n'étaient plus en train de jurer par le nom de Dieu. Mais Jésus dit, de toute façon, tu ne peux pas éviter de jurer devant Dieu et par lui, parce que le ciel, c'est son trône, la terre, c'est son marchepied. Tu ne peux pas enlever Dieu de tes serments. Parce que quand tu jures devant lui et par lui. Ni par Jérusalem, parce que c'est sa ville. En d'autres termes, c'est l'hypocrisie parce que tu agis comme si tu ne jures pas devant Dieu et par lui. Or, tu ne peux pas l'éviter. Deuxièmement, c'est de la malhonnêteté. Dans le verset 36, nous lisons « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Vous savez que quand on jurait, normalement, on devait invoquer la sanction de Dieu. N'est-ce pas ? Dieu est témoin entre moi et toi. Si je ne fais pas ce que j'ai dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Mais il y a une manière d'éviter la sanction de Dieu. Je ne vais pas jurer par Dieu, je vais jurer par ma tête. Mais tu ne peux pas changer un cheveu. Tu ne peux pas appeler une sanction sur toi qui va venir de ta tête. C'est-à-dire, ta tête va rendre tous ses cheveux gris si tu as menti. Tu es en train de mentir. Tu fais comme si tu appelles une sanction sur toi. Or, ta tête ne peut, tu ne peux rien faire à toi-même en jurant par ta tête. Donc, c'est hypocrite et c'est malhonnête. Et oui, quand cette dame disait toujours dans notre voisinage, je te le jure, cette phrase n'avait aucune substance. Parce que si elle disait pas vrai, ce serment n'appelait aucune sanction sur elle. Donc, il nous interdit de jurer par un autre nom que celui de Dieu. Deuxièmement, il nous interdit tout serment volontaire, même au nom de Dieu. Dans le verset 37, il dit que ta parole soit oui, oui, non, non. Ta parole, qu'on y ajoute, vient du mal. Et dans Jacques chapitre 5 et verset 12, excusez-moi, je vous lis rapidement et puis je vais essayer d'arriver à la fin. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Dans notre vie ordinaire, chers frères et sœurs, nous devons tout simplement pas jurer. Cette phrase, je te le jure, ne doit pas trouver sa place dans ta manière de parler. Et vous pouvez trouver ça complètement arbitraire, c'est pas une grande affaire de dire ça, mais Dieu dit que c'est une grande affaire. Je vais vous montrer pourquoi. Mais avant cela, il faut que je demande, est-ce qu'il y a des exceptions? Est-ce qu'on peut prêter serment? Parce que les anabaptistes, au moment de la réforme, et certains milieux chrétiens aujourd'hui, disent qu'on ne peut même pas prêter serment dans un tribunal. Et cela n'est pas vrai. Jésus est mis sous serment. Et il jure. L'apôtre Paul jure sous serment. En Matthieu 26, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure, c'est-à-dire je te mets sous serment, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus dit « Je le suis. » Paul, pour défendre son apostolat, lorsque son statut d'apôtre est mis en cause, il dit ceci, « Où je prends Dieu à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe. » Enfin, c'est dans une affaire où toute sa véracité est mise en jeu. Et ça, c'est grave pour l'Évangile lui-même. Je suis chrétien depuis l'année prochaine 40 ans. Et une seule fois dans ma vie, j'ai dû prendre serment dans une affaire qui n'était pas devant un tribunal. Et c'est parce que J'étais calomnié dans une situation à un moment donné, et un homme mettait en cause tout mon caractère et mon travail de pasteur dans une situation. C'est une amie dans mon église, un membre de mon église, mais qui était absolument furieux avec moi parce qu'il croyait que j'avais dit quelque chose que je n'avais pas dit. J'ai passé plus d'une heure, peut-être 2 heures avec lui, à essayer de le convaincre, à lui donner les preuves. Et il voulait pas écouter. À un moment donné, j'ai dit, écoute-moi bien. Je vais maintenant jurer devant la face de Dieu et je prends Dieu comme témoin. Et je lui ai dit, je n'ai jamais fait ça de ma vie, mais je prends Dieu comme témoin que je n'ai pas dit cela. Et j'ai dit plutôt ceci. Et en fait, cela l'a calmé. Et en fin de compte, il a accepté qu'il avait une mauvaise information. Devant un tribunal, on peut, et on est obligé, ce n'est pas de manière volontaire, mais on est mis sur serment. Et on peut effectivement jurer dans cette situation. Donc Jésus nous interdit de jurer normalement, à moins que nous soyons dans une de ces situations vraiment exceptionnelles. Et deuxièmement, il nous commande d'avoir une véracité de parole qui rend les serments inutiles. Donc il dit que votre oui soit oui. Que votre parole soit oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est-à-dire que toute parole que vous prononcez, que moi je prononce, doit être prononcée avec une telle conscience de la présence de Dieu que en tout cas, le chrétien n'a pas besoin de jurer. Les gens savent que sa parole est argent comptant, est évangile, pour ainsi dire. Et que chez lui, jurer, c'est vraiment inutile. Je vous demande, est-ce que vous avez besoin de dire je te le jure? Est-ce que c'est parce que, justement, sans cette phrase, les gens ne vous croiraient pas. Parce que vous avez été moins honnête parfois. Lorsque Jésus dit ce qu'on y ajoute vient du malin, qu'est-ce que cela veut dire? Vient du mal. Ça veut dire que la nécessité de jurer vient du péché, n'est-ce pas? Vient du fait qu'on manque de la crédibilité. Et si on est obligé dans notre vie normale de jurer, de jurer, de jurer, ça vient du mal. Ça vient du fait que notre parole n'est pas crédible. Dans l'Ancien Testament, il y avait donc cette nécessité de jurer dans la vie normale. Et ce fait était témoin du fait qu'il y avait un manque de crédibilité, de véracité, d'honnêteté, même dans le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament. Mais avec le royaume où le peuple de Dieu est devenu un peuple né de nouveau maintenant, changé par Christ, ce changement énorme dans notre vie, cette nouvelle essence, fait que cette absence de serment est témoin du fait que il y a une grande honnêteté dans notre vie. Je voudrais juste, pour terminer ce sermon, vous dire pourquoi est-ce que l'Évangile nous change tellement et rend les sermons inutiles. Je vous promets de le faire rapidement. Je veux vous donner 4 raisons pour lesquelles on ment la plupart du temps. Parce que vous savez que le mensonge est un péché secondaire. Tu mens à cause d'un autre péché dans ta vie. Tu ne mens pas, le mensonge n'est pas un péché primaire, mais c'est parce qu'il y a un autre péché. Par exemple, parfois tu mens, et moi je mens, parce que nous sommes orgueilleux. C'est-à-dire que nous mentons parce que nous ne voulons pas que les gens croient que nous sommes aussi mauvais que la réalité. Donc, je ne leur dis pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas fait ça parce que je ne veux pas avouer la vérité, parce que mon orgueil ne veut pas. Ou bien Ananias et Saphir. Vous vous rappelez, ils ont apporté une offrande au Seigneur et ils ont dit aux apôtres qu'ils avaient vendu leur maison, leur propriété et qu'ils donnaient tous les bénéfices, tout le profit. Or, ils avaient retenu une partie. Pourquoi est-ce qu'ils ont menti? L'orgueil. Ils voulaient paraître meilleurs, plus généreux que la réalité. Donc, l'orgueil pousse constamment les gens à mentir, à dire plein de choses au sujet d'eux-mêmes qui sont plus que la vérité. Comment est-ce que l'Évangile nous change à ce niveau? L'Évangile nous apprend de plus en plus à être des pécheurs, avoués, que nous sommes pleins de fautes, que nous avons plus envie de paraître. Nous acceptons, même la conversion, c'est accepter qui on est avec toutes ses faiblesses et ses fautes et les péchés qu'on a commis et les péchés qu'on commet toujours. Donc ça coupe à la racine de cette sorte de mensonge, n'est-ce pas? L'humilité que produit l'Évangile. Deuxièmement, souvent nous mentons par crainte. Vous vous rappelez d'Abraham qui a menti deux fois en disant que sa femme était sa sœur, parce qu'il avait peur qu'allant dans tel pays étranger, comme sa femme était très belle, que les gens allaient le tuer pour prendre sa femme. Donc il a dit, c'est ma sœur. Comme ça, tout s'arrange, personne ne va penser que pour la voir, il faut me tuer. Et souvent, nous mentons parce que nous croyons que nous allons perdre un poste. Nous allons perdre l'approbation des gens. Nous allons perdre un bien. Nous allons perdre notre revenu. Et donc, nous mentons. Je me souviens d'un forain qui m'a dit un jour, lorsque j'avais un stand de marché, que oui, bien sûr, je ne paie pas je ne déclare pas tous mes gains au marché. Non, 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 c'est pas possible, parce que je n'arriverai jamais à survivre. Donc il mentait par peur de ne pas pouvoir joindre les deux bouts s'il déclarait tous ses revenus. Parfois, nous mentons à cause des désirs égoïstes. Vous vous rappelez d'Acan, qui a pris des choses interdites et qui a caché ça, qui a menti, parce qu'il voulait ses biens, qui étaient le butin de la guerre, et le Seigneur avait dit, vous ne pouvez pas prendre ces choses. Donc, souvent, nous mentons, et le désir, c'est le contraire de la crainte, hein. Je désire ce que je crains de perdre et je crains de perdre ce que je désire. Et donc parfois, je mens parce que je désire avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus d'allocations que je ne mérite. Donc le mensonge me permet, je veux gagner l'élection. Et donc je mens, je dis des promesses pas possibles, n'est-ce pas? Je veux vendre plus de produits, je veux monter dans la société et donc je mens pour arriver à cette place. Par rapport à la crainte, je ne l'ai pas dit, mais l'Évangile nous change parce que nous craignons, parce que nous sommes laissés à nous-mêmes contre les malheurs et les problèmes de la vie. Mais l'Évangile nous amène à un endroit où nous savons que toute notre vie est dans la main d'un Père aimant et fidèle. Il prendra soin de nous. On n'a pas besoin de craindre ce qui arrivera si on dit la vérité. Mais ça, cette conviction vient seulement quand tu connais Dieu comme un Père fidèle. Tu es convaincu qu'il te protégera et qu'il prendra soin de toi. Ça coupe à la racine de ces mensonges. La même chose pour le désir. Lorsque nous venons à l'Évangile, nos désirs sont changés. On ne désire pas être riche ou avoir beaucoup de pouvoir. Vous savez ce qu'on désire de plus en plus à cause de ce changement que Jésus opère? Ce qu'on désire, c'est être vrai, c'est être fidèle, c'est être authentique, c'est être vraiment bon. Ces choses remplacent vraiment les désirs pour l'argent, pour ceci, pour cela. On veut marcher avec Dieu. On veut marcher dans cette intégrité, cette réalité. Et dernièrement, souvent on ment, ou au moins les non-chrétiens, lorsque nous étions non-chrétiens, on mentait à cause de la haine du vrai Dieu. Ça, nous voyons dans le livre de Romains que les hommes ont menti, ils ont échangé la gloire du vieux Dieu véritable qu'ils savaient exister contre un mensonge, des faux dieux qu'ils fabriquaient, parce qu'ils ne voulaient pas que le vrai Dieu existe. Et nous voyons cela constamment, constamment, que les gens mentent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas que le vrai Dieu existe. Je prends un exemple. La doctrine de l'évolution. Que je crois, dans un sens, est le mensonge du siècle. Dans 1972, le célèbre évolutionniste et gagnant du prix Nobel de l'université de Harvard, George Wald, a écrit ceci. Il n'y a que deux explications possibles concernant l'apparition de la vie. Une génération spontanée, selon l'évolution, ou un créateur surnaturel de Dieu. Ça, c'est évident. Il n'y a que ces deux possibilités. Soit la vie, génération spontanée, est venue comme ça, où Dieu a créé la vie. La génération spontanée a été prouvée erronée par Louis Pasteur et d'autres il y a 120 ans, ce qui ne nous laisse qu'avec une seule autre possibilité, que la vie est apparue grâce à un créateur surnaturel de Dieu. Mais George Val dit, « Mais je ne peux pas accepter cette philosophie parce que je ne veux pas croire en Dieu. Je choisis donc de croire à ce qui est impossible scientifiquement, une génération spontanée qui génère l'évolution. » Voilà. Voilà, un mensonge évident, clair, au moins il dit la vérité au sujet de son mensonge. Mais il enseigne le mensonge à des générations de personnes parce qu'il ne veut pas, une seule raison pour le mensonge, il ne veut pas que le Dieu de la Bible existe. Rémi Chauvin, professeur à la Sorbonne, auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, et auteur notamment du livre Le Darwinisme ou la mort d'un mythe, dit ceci. Je dis et je soutiens qu'il n'existait pas à ce propos, s'il n'existait pas à ce propos une foule d'idées préconçues, tout le monde conviendrait que puisque les animaux qui mutent facilement subsistent tels quels pendant des dizaines de millions d'années, la mutation ne saurait être le moteur de l'évolution. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le seul mécanisme qu'on a pu trouver pour que l'évolution existe, c'est la mutation donc dans l'ADN. Donc, la mutation ne saurait être le moteur de l'évolution. C'est une question de bon sens, mais les préjugés sont dans les sciences, comme ailleurs, bien plus forts que le bon sens. Donc, voilà une dernière raison. Mais pour nous, l'évangile a tout changé. On ne hait pas le vrai Dieu. On n'a pas besoin d'essayer à tout prix d'effacer son existence. On est plutôt réjoui que ce Dieu aimant qui envoie son Fils pour mourir pour nous, le Dieu qui pour nous, le Dieu qui nous aime, qu'il existe. Et on n'a plus besoin de mentir. Du tout. Nous voyons donc que l'évangile coupe à la racine du mensonge. et nous amène à une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Et maintenant, de plus en plus, notre oui peut être tout simplement oui, et notre non, non.